Est-ce que Nicolas, j'ai réglé la bonne hauteur? Parce que la dernière fois, ce n'était pas bien, vous ne m'entendiez pas bien, donc on va essayer de faire bien du premier coup cette fois-ci. Pourquoi nous réunissons-nous le dimanche matin? Nous nous réunissons pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, et le rencontrant, nous nous rendons compte que nous sommes ensemble des frères et sœurs et nous nous mettons à son écoute pour nous soumettre à sa volonté. Proverbe 16, les humains forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. C'est ce que tu dis dans ta parole. Mais nous sommes inférieurs, petits devant toi. Et c'est avec humilité que nous nous tournons vers ta parole pour savoir ce que tu attends de nous. Je te prie que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire. Et pour que nous puissions nous laisser transformer comme toi tu le veux. Sois le maître, le Seigneur de cette Église, Seigneur Jésus, toi qui en es la tête. Amen. Thierry l'a rappelé, nous sommes actuellement dans une série sur le mariage, qu'en dit la Bible. Et je vous invite ce matin à ouvrir l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5. L'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 21. Il est écrit: Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux feront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Jusqu'ici, notre lecture. Après le mariage qu'en dit le Créateur, après le mariage qu'en dit Jésus, le mariage qu'en dit l'Esprit. L'Esprit ? N'est-ce pas Paul qui a écrit ces lignes ? On prête parfois à Paul une réputation de misogyne. Alors, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais nous croyons que la Bible est inspirée et nous la recevons comme telle, avec cette autorité. Aussi, je crois que les écrits de la main de Paul qui sont dans la Bible sont dignes d'être reçus comme parole de Dieu. Ceci étant dit, que nous dit l'Esprit par l'entremise de Paul ? Ce texte parle, vous l'avez remarqué, de soumission. Ce texte est souvent pris comme texte pour argumenter que la Bible est en faveur d'une domination de l'homme sur la femme, aussi bien par ceux qui soutiennent ce point de vue que ceux qui sont contre et qui veulent montrer que la Bible est hors sujet de nos jours. Mais je crois qu'il convient de bien observer ce texte qui est plus nuancé que ce qu'on voudrait nous faire croire. Et j'aimerais faire quelques observations. Déjà, j'ai commencé ma lecture au verset 21. Et c'est avec réflexion que je l'ai fait. Certaines Bibles font commencer le passage au verset 22, par « Femme, soyez soumise à votre mari ». Mais quand on regarde dans le texte, en grec, il n'y a pas de verbe au verset 22. Comme dans la version où j'ai lu « Femme, à vos maris ». On se rend bien compte que le verset 21 sert d'introduction à ce passage, et non seulement à ce passage, mais aussi à ce qui suit, au chapitre 6, quand Paul parle des relations entre les enfants et leurs parents, et des relations entre les esclaves et leurs maîtres. Donc, c'est avec cette introduction, dans ce contexte particulier de soumission mutuelle, il faut comprendre le passage que nous avons lu. Soumettez-vous les uns aux autres, à ne pas confondre avec soumettez-vous les uns les autres. Ce texte n'est pas une invitation à soumettre d'autres, mais vraiment à se soumettre soi-même à d'autres. Paul n'est pas en train de dire « voici l'ordre que vous devez faire respecter dans la société ». Paul est en train de s'adresser à chacun et de dire « voici ce que tu dois faire, toi », sans te soucier de ce qui est demandé à l'autre. Comme on a du mal à recevoir ce texte ainsi, comme on a du mal à recevoir la Bible ainsi de toute façon. Si Jésus nous a dit qu'on a plus de facilité à remarquer la paille dans la poutre de notre frère, dans l'œil de notre frère, pardon, que la poutre dans le nôtre, c'est bien qu'il est plus facile d'être pointilleux sur son frère que de s'examiner soi-même. Également, les uns les autres introduit une notion de réciprocité. Ce n'est pas « soumettez-vous certains à d'autres », mais tout le monde est concerné et doit entrer dans ce schéma de soumission mutuelle. Deuxième observation que j'aimerais faire, c'est au verset 22, « Femme, chacune à son mari ». Ça veut dire qu'une femme n'est pas appelée à se soumettre à tous les hommes, mais bien à un seul, celui qu'elle a choisi. Et également, son mari, ce n'est pas à un homme, mais son mari, c'est-à-dire dans un cadre précis. George et Dora Winston dénombrent six sphères d'autorité qu'on trouve dans la Bible. Il y a la création, le mariage, la famille, l'Église, l'État et le travail. Et dans chacune de ces sphères, il y a des relations d'autorité indépendantes les unes des autres. Je reprends, j'emprunte un exemple à George et Dora Winston, pasteur de cette église. J'ai de l'autorité sur les membres. Mais si parmi les membres il y a un policier et qu'il m'arrête lorsque je grille un feu rouge, je ne peux pas lui dire « Je suis ton pasteur, tu ne peux pas me verbaliser ». On est dans une autre sphère d'autorité, dans un autre lieu d'autorité. Si une femme se soumet, c'est à son seul mari et volontairement dans le cadre du mariage et non pas ailleurs. Voilà qui cadre, qui nuance ceux qui voudraient établir une hiérarchie dans la création. Mais si on veut respecter le texte, il nous faut aussi remarquer qu'il y a une réelle dissymétrie dans ce texte. À l'épouse, il est demandé de se soumettre et de se soumettre en tout, verset 24. Se soumettre dans le sens de respecter son mari, hein, c'est précisé au verset 33, où Paul utilise un autre mot que celui qu'il a utilisé au début. Mais au mari, il est demandé d'aimer. Si on est honnête, on remarque que ce n'est pas la même chose qui est demandée aux deux. N'est-ce pas là contredire ce que je disais lorsque j'affirmais que la soumission était réciproque? Si ce n'est pas la même chose qui est demandée aux deux, est-ce qu'on peut parler de réciprocité? Pour comprendre ceci, j'aimerais donner un exemple, une expérience que j'ai vécue. Lorsque je travaillais, à un moment, j'ai eu un chef, un supérieur hiérarchique, et une fois, on a eu en équipe une décision difficile à prendre. Ce genre de décision qui allait décevoir forcément une partie de l'entreprise. On ne pouvait pas mettre tout le monde d'accord. Et face à cette décision difficile, notre chef nous a dit, et en particulier à l'un d'entre nous, « Est-ce que tu veux prendre la décision ou est-ce que tu veux que je la prenne ?» Son but, c'était de faire progresser son équipe, et pas non plus contre notre gré. Si la décision était trop dure, il était prêt à la prendre pour nous en décharger et la prendre lui-même et prendre sur lui les conséquences. J'ai vu là une illustration de la soumission mutuelle, même s'il est chef, même s'il est au-dessus, pour le bien de l'équipe, il est prêt à endosser une responsabilité peu agréable. Se soumettre les uns aux autres, c'est comprendre quel est notre rôle pour le bien des autres et rentrer dans ce rôle pour le bien des autres. Je crois aussi que cette dissymétrie dans ce qui est demandé entre le mari et l'épouse vient nous dire et nous rappeler que l'homme et la femme sont différents. Là encore, je prendrai une analogie qui me tient à cœur. Vous le savez peut-être, j'aime le rugby. Et au rugby, dans une équipe, il y a différents postes sur le terrain, des postes complètement différents. Suivant son poste, ce n'est pas la même chose qui est demandée. Pousser en mêlée, sauter en touche, plaquer ou courir, distribuer le jeu, rester disponible, ce n'est pas la même chose qui est demandée, ce n'est pas les mêmes qualités physiques qui sont demandées. Pourtant, tout le monde est appelé à rentrer dans son rôle et à jouer son rôle pour le bien de l'équipe. Quelle différence y a-t-il entre l'homme et la femme? Il est toujours risqué de s'aventurer sur ce terrain, de vouloir tirer des généralités. C'est donc prudemment, modestement, que j'emprunte ce chemin, mais il me semble constater que des épouses ont parfois tendance, quand les choses ne prennent pas la tournure qu'elles souhaitent, à chercher à obtenir ce qu'elles souhaitent par l'usure. Et c'est peut-être face à ce genre de comportement que Paul invite à se soumettre. à respecter la parole du mari. Quand on marie, lorsque son mariage devient difficile, que les relations sont un peu difficiles, j'ai l'impression qu'il a tendance à se dégager et adopter un certain détachement émotionnel en s'investissant à l'extérieur. Et face à ce genre de comportement, Paul interpelle « Aime ton épouse ». Ces conseils de l'apôtre sont, il me semble, toujours bons à prendre. Et quand ils sont vécus de façon réciproque, les uns aux autres, qu'on puisse vivre dans le respect et ne pas dévier de l'amour, je pense qu'on produit un mariage qui fonctionne bien. Mais ça pose aussi des questions pratiques. Qui commence ? La réciprocité, c'est bien, mais qui amorce la pompe et se soumet en premier ? Autre question qui est liée, comment faire si un des deux conjoints ne joue pas le jeu ? Ainsi, certains recevront peut-être ces directions de l'apôtre avec réticence à cause de leurs difficultés de mise en œuvre. Deuxième chose que j'aimerais remarquer, après avoir parlé de soumission, mari et épouse. S'arrêter à cette seule thématique à partir de ce texte, c'est passer à côté de quelque chose qui pourtant devrait nous être évident. Voici le texte que nous avons lu et j'ai joué avec mes stabilos. Qu'est-ce qui est le plus présent ? Est-ce qu'on voit plus de violet ou plus d'ocre sur ce texte ? Ça se mesure à la photo finish, mais je pense qu'on peut dire que c'est équivalent. En violet, nous avons les relations entre le mari et l'épouse, et en ocre, les relations entre Christ et l'Église. Ce texte parle tout autant de Christ et de l'Église que des relations dans le mariage. Tout d'abord, il est question d'agir comme l'épouse doit se soumettre, comme l'Église au Christ. Le mari doit aimer comme le Christ aime l'Église. Nous devons donc regarder comment se construit la relation entre le Christ et l'Église. C'est elle le centre de ce message, c'est elle le modèle. Et première chose que j'aimerais remarquer, c'est que c'est Christ qui a l'initiative. Son amour pour l'Église a débuté et a été mis en œuvre avant même que l'Église existe. C'est par son amour et par son sacrifice que l'existence même de l'Église a été rendue possible. Il a littéralement donné sa vie en mourant sur la croix pour que des hommes et des femmes puissent constituer l'Église. Ainsi, si un des deux conjoints doit commencer, si on prend l'exemple du Christ, c'est du mari qu'il s'agit. Et sans assurance de résultat, comme le Christ l'a fait. Quant à l'Église, son but, c'est de faire la volonté de son Seigneur, de sa tête, Jésus-Christ. C'est lui qui fixe sa mission. Mission que nous connaissons, que nous retrouvons dans l'Évangile. Allez, faire des disciples, les enseigner, les baptiser. L'action de l'Église est une réponse à la mission reçue. Ça ne veut pas dire que l'épouse n'a pas de latitude pour agir. On le voit dans l'Église. Nous pouvons faire preuve de liberté dans la mise en œuvre de la mission, inventer des cultes festifs pour toucher du monde, développer un parcours jeune chrétien quand on croit qu'il est nécessaire, se mettre en route pour acquérir un nouveau bâtiment qui sera un outil pour accueillir plus de monde. Ça me fait penser à la femme de valeur qu'on trouve à la fin du livre des Proverbes, au chapitre 31. Il est écrit « Son mari place sa confiance en elle, elle ne manque pas de ressources. » Et on la voit dans ce passage, non seulement tenir sa maison, mais développer une entreprise artisanale, aider les pauvres, investir financièrement. Entre l'Église et Christ, il y a une soumission qui laisse de la place à l'initiative et à la satisfaction du travail qui porte du fruit. Il y a, dans l'histoire, bien des fois, l'Église a failli. Et Christ, il est bon de le souligner, a toujours été fidèle. J'ajoute un point d'attention. Il faut bien faire la différence entre être et faire comme. Le mari n'est pas le Christ, le sauveur de son épouse. L'épouse ne tire pas son existence de son mari comme l'Église la tire de Christ. Mais il y a un exemple fort et inspirant. Mais je crois, mes amis, que Paul va encore plus loin dans ce passage. Reprenons versets 31 et 32. Paul cite la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux seront une seule chair. Et il ajoute, il y a là un grand mystère, je dis moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Paul nous dit que cette parole créationnelle que nous avons entendue trois fois ces trois derniers dimanches ne parle pas du mariage, mais de la relation entre Christ et l'Église. Quand Paul demande d'agir comme Christ et l'Église, il nous dit qu'il faut jouer un rôle. Dans le mariage, l'homme et la femme ont des rôles différents. Et sur ce sujet, je cite le théologien Henri Blocher. Alors, comment les différents rôles sont-ils établis? Eh bien, précisément comme des rôles. La meilleure analogie serait celle du théâtre. Sur la scène du monde, théâtre de la gloire de Dieu, le metteur en scène a assigné différents rôles à l'homme et à la femme. Ils sont en représentation. Elle, c'est la partenaire bien-aimée de l'Alliance de Dieu, son peuple choisi, sa race sous la grâce. Et lui, c'est le généreux Seigneur dans ses rapports avec l'humanité. Qu'est-ce à dire? En entrant dans le mariage, nous entrons en représentation. Nous représentons la relation du Christ et de l'Église aux yeux du monde. Quelle responsabilité! Il ne s'agit plus de savoir qui domine qui ou comment je vais tirer le meilleur parti de mon mariage pour mon établissement, mon épanouissement personnel. Mais il s'agit de comment je vais témoigner au monde par mes choix de ce que Jésus a fait pour moi par son œuvre de salut. C'est notre vocation. Et c'est ce que Paul veut dire quand il dit « Soumettez-vous les uns aux autres » dans la crainte du Christ. C'est Christ qui distribue les rôles et nous demande de les jouer pour montrer au monde la nouvelle humanité, la nouvelle alliance qu'il veut mettre en place. Quelle application? Quelle application tirer de cet enseignement paulinien sur le mariage? Pour ceux qui sont mariés, vous découvrez peut-être une responsabilité que vous ne connaissiez pas. Le but de votre mariage n'est pas uniquement de mettre fin à la solitude en vivant l'amour, mais c'est également de représenter la relation entre Christ et l'Église. Mariés, vous êtes témoins. Et dans ce cadre, on comprend que mon bien-être personnel au sein du mariage va devoir passer régulièrement en arrière-plan si je veux montrer l'amour sacrificiel du Seigneur et la soumission de l'Église à sa volonté. Pour ceux qui souhaitent se marier, il y a là, une fois encore, une invitation à choisir avec soin le partenaire, le mot est bien choisi, partenaire avec lequel nous allons jouer cette pièce si importante. Une erreur de casting, un mauvais accord entre les acteurs, et la pièce risque d'être ratée, et la représentation aux yeux du monde inefficace. Pour ceux qui sont mariés, il y a une invitation à observer encore et encore comment Christ s'est comporté et se comporte envers son Église, d'étudier comment l'Église devrait répondre à son amour à travers les recommandations des Épîtres. C'est en transposant ce que nous observons que nous saurons comment vivre nos mariages. Pour tous, que nous soyons mariés ou non, il y a l'opportunité de mieux comprendre la relation de Christ et de l'Église. Nous voyons tous des mariages autour de nous, le nôtre, nos parents, des amis autour de nous. Nous prenons conscience qu'il n'est pas facile de mettre en œuvre l'amour dont parle ce passage. Car il n'y a pas que les personnes mariées qui ont une idée de ce qu'est un mariage et de ce qu'est un bon mariage. Et chaque fois que nous constatons combien c'est difficile, nous pouvons contempler combien Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Pour nous, humanité rebelle, il a accepté d'aller jusqu'à donner sa vie. Et nous, dans nos mariages, nous galérons tellement à accepter de faire un pas de plus. Lui, il est allé jusqu'au bout. Chaque fois que nous constatons combien la soumission est difficile, nous pouvons nous interroger aussi sur la soumission de l'Église à Jésus. L'Église dont nous faisons partie. Est-ce qu'en tant qu'Église, et moi, dans la part que j'y prends, est-ce que je suis soumis à Jésus-Christ en tout, comme je le devrais? Peut-être pensez-vous à des mariages qui sont exemplaires pour vous, des mariages que vous admirez. Eh bien, vous pouvez en tirer une idée de l'amour entre Christ et l'Église et vous dire que celui-ci est encore supérieur. Au moment de conclure cette prédication et cette série, je dirais que le mariage est une entreprise belle et difficile. Et dans notre monde atteint par le péché, c'est même malheureusement un lieu de souffrance pour beaucoup. Mais on peut comprendre si le mariage revêt une telle importance dans le plan de Dieu pour la révélation de son amour, on peut comprendre que ce soit un lieu de combat, un lieu qui soit attaqué par l'adversaire. Le mariage peut être un lieu de souffrance. Certains, et même le plus souvent certaines, y sont abusés, traités comme des objets. Certains ont essayé et en sont désabusés. Certains y aspirent sans réussir à y rentrer. C'est aussi une souffrance. Et pourtant, malgré tout ça, la Bible nous appelle à voir le mariage avec ambition, comme une alliance forte, totale, basée sur ces trois mouvements, quitter, s'engager, devenir. Comme le refus du donnant-donnant et de la dureté de notre cœur, dans une persévérance sans cesse renouvelée. Et aujourd'hui, l'ambition de représenter l'amour parfait de Jésus-Christ lui-même pour son Église. La barre est haute. Mais justement, avec cette hauteur de barre, et même si nous nous sentons petits, nous pouvons compter sur l'amour de Jésus-Christ et sa grâce. Parce que c'est pour nous qu'il s'est livré lui-même afin de nous consacrer, en nous purifiant par le bain d'eau et la parole pour nous faire paraître devant lui en une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et il nous aide, par son esprit, à vivre nos mariages et à vivre plus largement toutes les situations où nous devons être soumis les uns aux autres. Que la terre entière contemple sa gloire. Amen. Je vais prier.